Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission que nous avons réalisée à l'atelier radio de la MDA. Comme vous le savez très bien, et je l'espère parce que sinon, honte à vous, le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Même si normalement, c'est tous les jours. Cette année, c'est tombé le jour où, à l'atelier radio, on cherchait le thème de notre prochaine émission. Ça nous a amené naturellement à choisir le thème du féminisme pour notre prochain projet. Alors, on y a réfléchi. On a aussi travaillé à partir du court-métrage « Majorité opprimée » d'Éléonore Pourria. Ce film, rempli de stéréotypes, nous a fait nous poser des questions sur cette sensible thématique qu'est le féminisme. Et on va essayer d'y répondre. Et dans l'émission, il y aura aussi des chroniques et l'interview d'une professeure d'EPS qui se définit comme féministe. Dina, c'est à toi.
Pour moi, je pense qu'il faudrait d'abord définir ce que c'est que le féminisme. Parce que quand j'étais petite, l'image que j'avais des féministes, c'était celle des femmes là, qui se montraient toutes nues pendant les événements publics. Et donc, ça m'a amené à penser pendant des années qu'être féministe, c'était de se mettre toutes nues dans la rue et crier « Donnez-moi mes droits !» Quand à l'école, les adultes ils me demandaient si justement j'étais féministe parce que j'étais la seule fille qui joue au foot avec les garçons, forcément, je répondais non parce que j'avais cette image en tête. À mon arrivée au lycée, j'ai été élue au conseil de la vie lycéenne et on a mis en place des projets sur l'égalité filles-garçons. À ce moment-là, j'ai rencontré des associations comme Nous Toutes 34. Du coup, ça m'a permis de comprendre ce qu'était le féminisme et pourquoi on se battait pour ça. Nous avons donc eu l'idée d'aller faire un micro-trottoir et d'interroger des gens au hasard dans la rue. Je vous laisse écouter et on en reparle juste après. Qu'est-ce que le féminisme ?
Oh là là, c'est le combat des femmes à juste titre pour leurs droits, je dirais. Voilà.
Pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'il n'y a pas de féminisme.
Vous voulez plus
développer ? Il y a des hommes, il y a des femmes, il n'y a pas de féminisme. Chacun est un individu et doit être respecté en tant que tel.
Quel est votre idéal féminin pour une figure emblématique ?
Moi-même.
Non, je ne dirais pas moi-même, je dirais Simone Veil, je pense que c'est une femme. Elle avait su concilier à la fois famille, machin, etc. Et en même temps, elle s'est battue tellement pour les femmes.
Quel est l'impact du féminisme dans ta vie ?
Une remise en question assez régulière de ses propres comportements, je dirais.
Alors le féminisme, je trouve ça bien quand c'est bien dosé, parce que moi c'est vrai que dans ma vie j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui se croyaient au-dessus justement parce qu'ils étaient des hommes, et je trouve que c'est important de lutter contre ça.
L'impact en fait, c'est qu'on peut vivre le féminisme, on peut avoir des relations sexuelles sans tomber enceinte, on peut se balader dans la rue avec des jupes, on peut sortir toute seule dans la rue, on peut faire le travail qu'on veut, le féminisme c'est tout ça, c'est ouvrir un compte bancaire hein, qu'on n'avait pas le droit avant. Donc c'est toutes ces avancées, choisir son métier, choisir ce qu'on a envie de faire, se marier ou pas du tout. Oui, ça a un énorme impact je trouve sur la vie. Hein.
Bon, d'après vous, comment un homme pourrait être féministe ?
Vous croyez qu'un homme peut être féministe ? Il peut respecter la femme mais être féministe pour autant, non ?
Pour vous, comment un homme pourrait-il être féministe ?
En soutenant le féminisme.
Je pense qu'il y a aussi des actes et un comportement au quotidien aussi, hein, quand même, hein, notamment tout ce qui est charge mentale, partager les charges, c'est important.
Je pense que c'est difficile pour un homme d'être féministe, c'est-à-dire de surtout le féminisme actuel tel qu'il est. Ça a toujours été difficile. Hein. Mm-hmm. Ce qui est difficile pour lui, c'est de remettre en cause une certaine image de lui-même, une certaine image et aussi un certain rôle. Enfin, je pense. Et ça, c'est quand même difficile pour les hommes. Il faudrait les interroger eux.
Ça, c'est remettre en cause son propre fonctionnement en tant qu'homme dans la société.
Oui, sa place, c'est complètement sa place, quoi. Et ça, je veux dire, l'homme, c'est quand même un prédateur. Enfin, sexuellement, c'est un prédateur, je pense.
J'ai une petite question. Est-ce que vous avez trouvé que les questions posées étaient trop compliquées et trop pointues ? Moi, je pense que les questions qu'on a posées ont eu pour conséquence le fait que les réponses, elles étaient pratiquement toujours les mêmes. Et je pense que les personnes interrogées, elles pouvaient se sentir piégées parce qu'elles ne donnaient pas vraiment la possibilité aux personnes de donner leur vrai avis. Un peu comme si on leur donnait un choix multiple et qu'on ne leur laissait même pas la possibilité de cocher autre. Parce que je pense que la pression actuelle de la société fait que si l'avis de la personne ne va pas dans le sens du combat qui est mené, cela peut provoquer des conflits. C'est comme si on leur demandait s'ils aimaient les licornes, mais que le reste de la société les avait déjà condamnés à mort s'ils ne répondaient pas oui. Je ne sais pas si vous avez retenu le témoignage de la dame qui nous disait que pour elle, il n'y avait pas de féminisme. Quelle audace ! Elle a provoqué une vague d'indignation, voire même de la colère dans notre groupe quand on a réécouté son témoignage. Personnellement, après l'avoir réécouté une deuxième fois un peu plus tard, je me suis rendu compte que ses arguments avaient été cachés par le ton employé, comme si elle n'en avait rien à faire. Elle se dit juste qu'après tout, les femmes et les hommes sont égaux en droit, non ? Alors pourquoi continuer à parler de féminisme si tout le monde est déjà au même niveau ? En gros, de ce que j'ai compris, pour elle, le féminisme ne devrait pas exister. Il ne devrait pas y avoir de débat sur l'égalité de ces dernières, pas de combat pour les droits des femmes. Tout ça pour vous dire que ce micro-trottoir, il m'a permis de réfléchir à la façon dont on écoute en général. Je pense qu'il est important de laisser les gens s'exprimer librement, sans les mettre dans des cases toutes prêtes.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Dossier numéro 6428.
Nous sommes saisis ce jour pour définir le genre du mot cuisine. Maître Alima, je vous laisse la parole.
Monsieur le juge, Maître Iliane, je plaide aujourd'hui en faveur du genre féminin du mot cuisine. En effet, mes chers, la place de la femme est en premier lieu au foyer, mais surtout dans la cuisine.
Mais voyons, je suis en profond désaccord avec l'argumentation de Maître Alima. Les grands cuistots sont tous des hommes. Cela m'est, pour ainsi dire, tout à fait naturel et évident qu'il nous faut adresser au mot cuisine le genre masculin.
Merci, Maître. Chacune de vos plaidoiries s'appuie sur un argument sexiste et rétrograde. De la sorte, je décide d'éradiquer le mot cuisine de notre langue. À compter d'aujourd'hui, il sera impossible de trouver le mot cuisine dans un dictionnaire.
Dossier numéro 6848.
Très bien. Nous allons maintenant traiter le très controversé genre du mot utérus.
Messieurs, mesdames les jurés, monsieur le juge, maître Iliane, je promeus l'utilisation du terme « une utérus », car seules les femmes ont une utérus, et nous devons mettre en avant les femmes.
Mais maître Alima, vous dites vouloir mettre en avant les femmes, or vous ne faites que les réduire à leur utérus. Bientôt, on vous entendra dire que les femmes ne servent qu'à engendrer et que les hommes ont un verge.
Je vois. Ayant une fille et une femme, je souhaite qu'elles soient représentées par le mot utérus. Je décide donc qu'on parlera désormais d'une utérus.
Dossier numéro 2851.
Bien. Nous examinerons donc le mot tentacule.
Je radote depuis quelques dossiers déjà, mais il m'est tout naturel de conserver nos coutumes. Et un tentacule sonne simplement français. Les dictionnaires les plus respectés sont en accord. Cela devrait suffire.
Bon sang, maître Alima. Un tentacle est déjà traditionnel. Une tentacule est désormais plus intéressant. Et soyez sincères devant notre conférence et ses spectateurs. Il ne doit exister que 3 Français qui sachent les différencier.
Vos arguments sont tous deux très convaincants. Je suis arrivée à un verdict. Le mot tentacule va devenir un nom propre. Plus de déterminant, plus de genre, tentacule.
Être une femme, aujourd'hui, c'est beaucoup de choses.
Ça veut dire devoir être une battante pour ne pas succomber sous les stéréotypes de la société.
Être une femme, aujourd'hui, c'est être l'objet de tous les supplices.
Ça veut dire avoir plus de restrictions que les hommes.
Être une femme, aujourd'hui, ça veut dire être jugée et remplir des attentes.
Être une femme, aujourd'hui, ça veut dire être heureuse.
Ça veut dire vivre loin des préjugés du genre.
Ado Radio, allez viens dire ton mot.
Je suis Christelle Férignac, j'ai 62 ans. Mon métier, je suis prof d'éducation physique.
On voulait vous demander quel a été le ou les éléments déclencheurs dans votre parcours par rapport à la lutte pour les droits des femmes.
Si je réfléchis à cette question comme ça, je crois que ce qui a été déclencheur, c'est une image chez mes parents d'un journal qui est paru il y a aujourd'hui 52 ans. C'était le Nouvel Observateur qui publiait un manifeste de 343 femmes qui déclaraient avoir avorté, donc dans l'illégalité, puisqu'à l'époque c'était illégal. Donc moi j'étais très jeune et j'ai questionné ma mère, qui, elle, militait dans un mouvement qui s'appelait le MLAC, Mouvement de Libération pour l'avortement et la contraception. Et à partir de là, voilà, c'est elle qui m'a un petit peu épaulée sur ces questions-là.
Avez-vous un idéal féminin ?
L'idéal féminin, c'est une femme émancipée qui affirme ce qu'elle espère. Voilà, c'est ça l'idéal féminin, quelqu'un d'heureux dans sa vie de femme.
Est-ce que pour vous, les femmes ont déjà acquéri tous les droits dont elles avaient besoin ?
Oh non, on est loin. Il y a des droits qui sont écrits, mais qui sont concrètement pas réalisés. Je pense à l'égalité salariale, par exemple. Elle est écrite dans la loi, cette égalité, mais elle est, dans les faits, elle n'est pas réalisée. L'égalité sur, je sais pas, des formes de contraception ou l'égalité sur une pratique physique. On va prendre le foot, par exemple. Voilà, le haut niveau en termes d'égalité salariale, c'est, voilà, ça serait un droit à revendiquer.
On a la chance ici d'avoir une joueuse de football,
oui.
Alors que c'est un sport qui est plutôt dominé par les hommes. Dina, est-ce que tu as quelque chose à nous dire à propos du football ?
Même si le football féminin a évolué ces dernières années, on trouve encore quelques différences. Tout à l'heure, vous parliez de salaire, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai la chance de jouer dans un club où le foot féminin il est assez bien représenté. On a une grande section et tout. Même avec ça, en étant à haut niveau en Régional 1 et en ayant des garçons qui jouent en départemental, on voit encore beaucoup de différences, que ce soit dans l'achat du matériel, le financement des trajets, par exemple. Il y a priorité à eux pour faire leurs déplacements alors qu'ils vont juste dans l'Hérault. Tandis que nous, on va en régional, on va jusqu'à Toulouse, jusqu'à Rodez et tout ça. Et au lieu de se retrouver avec les minibus, on se retrouve à devoir demander aux parents de chacun prendre leur voiture et tout ça. Je le remarque aussi parce que comme je coach une équipe de garçons, je sais qu'au début de l'année, quand je suis arrivée, ça a suscité le doute. Parce que voir une fille qui va entraîner des garçons, c'est pas commun. Quand je me retrouvais sur les terrains en compagnie des enfants, pour jouer contre d'autres équipes, souvent les coachs adverses ils étaient un peu étonnés, voire choqués de voir une fille capable de coacher une équipe de garçons.
Oui, ce témoignage est très intéressant. C'est les petites vexations quotidiennes qui arrivent dans le mouvement sportif. Encore une fois, c'est l'histoire du mouvement sportif qui explique ça. Pour lutter contre, c'est vraiment, ça va partir de vous, hein, les sportives. Il y a des clubs qui perdent des fois complètement leurs équipes féminines parce qu'on privilégie les équipes de garçons.
On a quand même la chance d'être une des plus grosses sections féminines de l'Hérault et du district et tout ça. Donc du coup, on a pas mal d'aides financières par la mairie. Mais après, tout ce qui est terrain et tout ça, priorité aux garçons. Même si ils jouent 4 divisions en dessous de nous et que leur niveau est catastrophique.
Selon vous, quel est l'endroit où l'on trouve, alors l'endroit, pas forcément en termes de lieu, mais où l'on trouve le plus d'inégalités entre les sexes ou les genres, donc ça peut être aujourd'hui ou avant.
Le préalable, c'est qu'on pense qu'il y a des endroits où l'égalité, elle est de fait, par exemple l'école, et ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un préalable, c'est-à-dire qu'à l'école, il n'y a pas d'égalité fille-garçon, c'est absolu, puis ça n'avance pas, sur la place que prennent les garçons dans la cour ou les filles dans la cour, l'orientation des filles et des garçons. Enfin, c'est des choses sur lesquelles on sait depuis longtemps comment il faudrait faire et sur lesquelles ça n'avance pas du tout. L'endroit où il y a le moins d'égalité, c'est probablement sur des postes à responsabilité. Je crois que c'est là-dedans, les chiffres le montrent, qu'il y a beaucoup moins de femmes en responsabilité que d'hommes. Et on ne voit pas pourquoi.
La femme qui compte le plus pour moi, c'est moi-même, car je m'aime.
La femme qui compte le plus pour moi, c'est ma mère, c'est tout.
La femme qui compte le plus pour moi, c'est ma grand-mère, Binta. Je ne l'ai pas vue depuis que je suis partie de Gambie.
La fille qui compte le plus pour moi, c'est ma fille, une femme en devenir.
La femme qui compte le plus pour moi, c'est... En fait, quand j'y pense, elles sont deux, les femmes qui comptent le plus pour moi. D'abord, il y a ma mère, et puis il y a ma meilleure amie d'enfance. Elles m'apprennent chaque jour les cris de la liberté.
La femme qui compte le plus pour moi, c'est Adèle Haenel, parce qu'elle est belle et libre comme une hirondelle.
Si j'étais une femme, je serais un homme parce que je suis déjà une femme.
Je porterais des strings.
Je ferais une ligature des trompes ou tromper des hommes.
Je n'aurais pas d'enfant.
Je serais une fille manquée.
Si j'étais une femme, je serais morte.
Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections pour faire attention. Comme un garçon.
On a vu un court-métrage qui s'appelle Majorité opprimée et qui renverse les rapports hommes-femmes. C'est l'histoire de la journée d'un homme qui vit ce que pourrait vivre une femme au quotidien dans notre société. Il se fait siffler dans la rue, se fait rabaisser constamment, et il se fait même agresser par une bande de filles.
Connard ! Hé, t'aurais pas de petite pièce, s'il te plaît ? Oh putain, c'est la journée du connard aujourd'hui !
Ouais, ça va, hein.
Oh, qu'est-ce que t'as ? Comment tu parles, lui ? Oh, mais oh ! Mais tu crois que je te vois pas, là, sur ta selle ? Tu t'es vu dandiner ton petit cul dans ton petit bermuda bleu marine, mon gars ?
Ce que j'ai ressenti face à ce court-métrage, c'est de la culpabilité et du dégoût.
Y'a un problème, là ?
Oh, ouais, il aime pas les compliments, ouais, hein.
Non, j'aime qu'on me foute la paix.
Laisse tomber, c'est un cajou, là.
Je kiffe le gros.
Mal baisé, va.
Mais de quel droit vous me parlez comme ça ? Pourquoi vous me parlez comme ça ? De quel droit vous me parlez comme ça ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce comportement ?
La culpabilité, puisque bah moi je suis un mec, donc je trouve que nous en tant qu'hommes, on est vachement, vachement chiant envers les filles. Et le dégoût, puisque dans tous les cas, c'est hyper grave d'agresser une fille ou même un homme.
Oh putain ! Oh putain ! J'en peux plus de cette société de féministes de merde. J'ai l'impression que nos pères se sont battus pour rien, putain, c'est horrible. Quand je... Ouais, Tu dis rien, Marion ?
Tu me fais marrer avec tes discours, là, de chien de garde. T'as vu comment t'es habillée ? Bah, comme un petit allumeur, voilà. Ta chemisette, là, tes tongs, ton bermuda au ras du genou.
Il a pété les plombs, je m'habille comme je veux.
Bah, t'étonnes pas qu'on vient de t'emmerder, alors ?
Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me mettre une cagoule ?
J'ai pas envie de polémiquer, là, je suis fatiguée.
Marion, qu'est-ce que tu fais ? Marion !
Cherchez la bagnole, ça va me détendre.
Existe-t-il plusieurs féminismes ? Eh bien non, il n'y a jamais beaucoup de suspense avec moi. Tout d'abord, le féminisme est un terme contemporain. Il naît en 1882 comme la lutte pour les droits des femmes sous la plume d'Hubertine Auclert, écrivaine issue d'un milieu aisé. 11 ans plus tôt, on voit, au loin dans les rues de Paris, des barricades dressées par des mains de femmes, d'hommes et même d'enfants. C'est la Commune, et le prolétariat est au premier rang. Il ne fait aucune distinction d'âge ou de sexe.
Vive la Commune !
Alors arrive un point important du discours. De toute l'histoire des civilisations, c'est dans les classes de la bourgeoisie ou de la noblesse qu'éclatent au plus fort les inégalités de genre. Mais à bas l'anachronisme. Utiliser le terme de féminisme pour des époques antérieures au XIXe siècle est une erreur. Pour la suite, nous l'utiliserons uniquement car c'est la seule expression qui, en un seul mot, désigne le combat pour l'égalité des genres et la fin du sexisme. Le problème est que trop nombreux sont ceux qui s'auto-persuadent qu'il existe plusieurs féminismes. Des féminismes en fonction des siècles, des féminismes racistes, des féminismes transphobes, et j'en passe. Or, ce féminisme, ayant pour simple définition celle référencée il y a quelques instants, il n'y a absolument aucune raison de le laisser dévier. Non, le féminisme ne peut être raciste, car il inclut ou doit inclure toutes les femmes, quelle que soit leur ethnie ou leur couleur de peau. Non, le féminisme ne peut être transphobe, car il inclut ou doit inclure toutes les femmes, quel que soit le genre qui leur a été assigné à la naissance. Les femmes transgenres sont des femmes, et il n'y a pas plus à chercher. Dernièrement, non, il n'existe pas des féminismes qui s'amortissent à chaque époque. Car certes, on n'est pas séparable du temps du milieu dans lequel on vit et on évolue. En revanche, depuis qu'il existe inégalité de genre, il existe, si ce n'est lutte, au moins pensée pour l'égalité. On en a autant de traces qu'il existe de siècles dont les civilisations sont pourvues d'écriture. Il est trop simple d'accorder à quelqu'un le titre de défenseur du droit des femmes ou encore promulgateur des égalités de genre, simplement parce que cette personne a dit quelques phrases ou réalisé quelques actions en faveur du droit des femmes, sachant que cette même personne a, par quelque autre phrase ou autre action, fait tout l'inverse de ce qu'elle a promulgué. Retirons l'hypocrisie. On est profondément, entièrement en lutte pour ce qui nous semble important, ou on ne l'est pas du tout. Qu'on murle que je suis radical, tant mieux si vous le pensez. On vous remercie à tous d'avoir écouté notre émission, ça nous a fait plaisir.
On espère que ça vous a plu et puis on remercie tous les gens qui y ont participé. Félix, Alima,
Iliane,
Enzo,
Dina, Taylor, Zina, Gilbert aussi. Et puis aussi bien sûr, merci à Célia aussi d'avoir participé à l'émission.
Et à Manon.
Et à Manon et à Jean-Jacques. On remercie beaucoup la Maison des Adolescents.
Et Wakadi, on a quelque chose à dire.